Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'introduction qui va être longue. Voilà. Je vous annonce, Farid m'a dit bon, je finis plus tôt. Bon, on verra bien. L'AG, c'est à 14h. Donc, l'introduction à l'évangile de Jean. David, je te laisse gérer le diaporama. Hein. Ouais, j'ai pas pris la zapette, mais t'inquiète, ça va suivre. Il y a les grands titres. Donc, Farid m'a demandé donc, aujourd'hui de nous intéresser à l'évangile de Jean. Donc, on va voir le prologue, 5 versets. J'espère que je ne vais pas trop en dire pour la personne qui fait la semaine prochaine, sinon il est mal. C'est qui ? Andrew. Alors, je m'adresse à Andrew. Alors, quand Farid m'a demandé ça, il m'a dit « Bon, voilà, tu vas faire le chapitre 1 ». J'ai dit « Très bien ». Puis en fait, je me suis trompé, c'est le prologue. J'ai fait « Ah mince, comment on fait ça ?» Et donc, il m'a dit « Facile, hein, bah, tu vas faire une enquête ». Donc, je me suis un petit peu intéressé à l'enquête sur quel est ce livre, où est-ce qu'on le trouve, qui l'a écrit. Et on va voir un petit peu tout ça ce matin. J'ai plein de notes, parce que j'ai plein de choses à dire. Et je vais en lire beaucoup de choses parce que c'est difficile pour rester bien dans le cadre. Donc, il semblerait que le livre ait été écrit au 1er siècle, à la fin. Certains le situent entre 60 et 100. On serait plus proche aux alentours de 90. Et on va voir un petit peu son positionnement par rapport aux autres évangiles. Et qui est l'auteur. Alors, l'auteur, j'ai bien aimé, ils ne sont pas signés à la fin, mais il dit c'est le disciple bien-aimé. Quand on écrit un livre, c'est pas mal de se nommer soi-même comme disciple bien-aimé. Bon, moi, je trouvais que c'était malin. Mais bon. Tout d'abord, première partie, la Bible. Un petit rappel. Et je pense que c'est intéressant de se reposer un petit peu la question, de savoir combien il y a de livres dans la Bible. Parce que la Bible, il n'y a pas un seul auteur, même si on sait et on croit que c'est un livre qui est inspiré. Donc, combien y a-t-il de livres dans la Bible ? 66. Très bien pour ceux qui ont retenu. Ça, c'était la partie facile. Combien dans l'Ancien... J'espère que je ne l'ai pas écrit. Hein. Ah mais non, il a pas passé la diapo suivante encore. Ouais, l'enquête. Ouais, tu pourras passer après, t'inquiète. Donc là, on est déjà au titre de la Bible. Donc, dans l'Ancien Testament, on en trouve 39. Et dans le Nouveau, 27. Mais il semblerait que certains aient une Bible avec un petit peu plus de livres. Alors pourquoi nous, chez les protestants, on a la retenue 66 ? Bon, c'est pas Farid, pas Andrew ou Pierre qui ont décidé... À la CM, on n'aura que ces 66-là. Il y a eu différents conciles dans les premiers temps qui sont venus se poser la question de quels étaient les livres inspirés. Donc on a des recherches sur l'inspiration, sur l'usage ancien. Et nous, en tant que protestants, on est revenu un petit peu sur le canon. Vous savez qu'il y avait le canon de l'Église catholique. Le Nouveau Testament, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas changé. Par contre, il y a 9 livres de l'Ancien Testament qui sont sortis de notre canon. Donc voilà un petit peu. Et la Bible a été écrite de ce que les historiens ont fait, du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er. Donc, en 800 ans, tout était à peu près écrit. Voilà un petit peu. Donc, les réformateurs... se sont posé la question de dire est-ce que les livres ont été écrits par des apôtres ? Est-ce qu'il y avait un usage ancien des écritures ? Est-ce que on a retrouvé plusieurs manuscrits ? Donc là, si ça vous intéresse, il y a plein d'ouvrages sur la Bible et pourquoi ce livre a traversé les siècles et des siècles. Ensuite, on va passer à cet auteur, Jean. Il se nomme lui-même plusieurs fois le disciple que Jésus aimait. On trouve dans Jean 13, 23, l'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table, juste à côté de Jésus. Dans Jean 19, 26, Jésus vit sa mère près d'elle, le disciple qu'il aimait, et il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et on retrouve ça dans Jean 20, dans Jean 21, 7 et 20. L'évangile nous dit que c'était un fils, il était frère de Jacques, et que c'était le fils de Zébédée. On voit ça dans Matthieu 4, 21. On voit aussi qu'il était disciple de Jean le Baptiste. Dans Jean 1, 35, le lendemain, Jean le Baptiste, était avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Voilà comment ils sont passés de disciples de Jean-Baptiste à Jésus. Est-ce que tout cela est vraiment important? Parce que, en faisant des recherches, j'ai trouvé beaucoup de débats et beaucoup de personnes que je ne connaissais même pas. Des gens, il y en a beaucoup. Je pense que c'était un prénom un peu répandu. Il y a combien de gens dans la salle? Il va falloir le remettre un peu à la mode. Pierre est un peu plus à la mode. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment important. On l'attribue aux disciples, un des 12. Et on va voir que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans cet évangile qui est profondément symbolique au sens fort. Il relie Dieu à l'humanité. C'est un évangile théologique et anthropologique. Andrew, je te laisse ça pour toi, cadeau. Qui nous parle de Dieu et de l'être humain? C'est ça le théologique et anthropologique. C'est théologique, il va nous parler de Dieu, et anthropologique, nous parler de l'homme. Il est où François? Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir François. Il a fait l'académie hier et c'était sur Christocentré. Il me l'a rappelé ce matin, donc il m'a dit « J'espère que tu ne parles pas de Christ, c'est difficile de ne pas en parler. » Bon, où et quand est-il écrit? Je vous ai déjà dit qu'on était aux alentours de 100 après Jésus-Christ, 90, 100, il semblerait que ça soit soi qui soit retenu. Et où? À Éphèse, en Asie mineure. Donc, Jean a été avec Jésus, a priori au début Judée, puis après en Galilée, à Jérusalem, vous regarderez ça dans une carte, et puis après il s'est installé pendant pas mal d'années en Asie mineure. Il a été exilé à l'île de Patmos, et il semblerait qu'il ait fini sa vie à Éphèse en Asie mineure, peut-être celui qui a vécu le plus longtemps, et celui qui n'a pas eu une mort un peu violente. Mais alors, pour qui a-t-il écrit et pourquoi? Ça suit la technique, ils sont forts. Alors, c'est une période de persécution croissante pour les chrétiens, d'apostasie grandissante et de querelles sur la nature de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Jean va rédiger son témoignage du Sauveur. On pense que c'est une réponse directe à des gens qui tentaient de diminuer ou de nier l'aspect divin de Jésus-Christ. Or, on a le gnosticisme qui considérait que le monde matériel est mauvais, que le salut vient par une connaissance spéciale. Ces personnes-là voyaient parfois Jésus comme un être purement spirituel et non comme véritablement incarné. Donc, ce matin, on a entendu ça et je vais y revenir dessus. Jean répond à cela dès le prologue en affirmant que le Verbe s'est fait chair dans Jean 1, 14. La parole s'est faite homme. Le docétisme, la doctrine qui affirmait que Jésus n'avait pas apparence humaine, n'était pas réellement incarné. Là encore, Jean insiste véritablement sur l'incarnation. Ça, c'était la partie théologie. Il y en aura d'autres, vous ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas inquiet, vous devriez. Maintenant, une question qui revient souvent, c'est la différence de l'évangile de Jean par rapport aux autres évangiles. Pour ceux qui ont déjà lu les évangiles, on fait des parallèles, il y a certaines choses qui sont dans les quatre. Et en fait, on se rend compte que l'épître de Jean est un petit peu celui qui fait bande à part. Alors, est-ce qu'on peut parler de contradiction ou simplement d'un autre point de vue? La semaine dernière, j'ai assisté à un culte café croissant avec deux personnes, bah, les fameux Pierre, hein, puisque c'est répandu dans notre église. Et Francesca disait à son mari, raconte la vraie histoire de notre rencontre. Pour ceux qui sont en couple, mariés depuis quelques années, il y a toujours dans une histoire deux façons de voir, de la façon dont on l'a vécu. Et oui, on rigole à dire, non mais tu racontes mal, non mais vas-y, raconte. Moi j'ai trouvé beau, ils étaient d'accord qu'il y en avait un des deux qui devait raconter la vraie histoire. Bon, même s'il y a eu des ravous un peu. Voilà. Et donc, on voudrait un petit peu, dans notre contexte, que quatre personnes écrivent l'histoire de Jésus, qui s'est passée pour certains, on le verra après, il y a 30 ans, 35 ans, et pour Jean, il y a 60 ans. Et donc, on voudrait que les récits soient les mêmes. J'ai un grand talent d'enquêteur, mais j'ai déjà rencontré un vrai enquêteur qui dit, en général, quand l'histoire est exactement la même, c'est qu'il y a eu une copie qui a été donnée et qui a dit, rédige comme ça l'histoire. Bon, c'est normal quand on fait une enquête qui est des choses différentes. Et bien là, forcément, on raconte la même histoire, donc c'est plutôt une richesse d'avoir différents points de vue. On est des personnes différentes, composées en général dans une assemblée d'hommes et de femmes. Ça, c'est la première différence, même si on voulait dire qu'il y a d'autres choses, mais en général, il y a des hommes, des femmes. Il y a des grands, il y a des petits. Bon, bref, vous avez compris. On a des sensibilités différentes. Il y en a, ils sont plus littéraires. Il y en a, ils sont plutôt scientifiques. Donc, on met des chiffres des fois un peu. J'en ai trouvé plein. Enfin, j'en ai mis quelques-uns. Donc, je pense que c'est plutôt une richesse d'avoir la vie de Jésus, et donc nous sommes une église évangélique, parce qu'on a ce désir de recentrer vraiment sur les évangiles. Et donc d'avoir quatre évangiles différents, ça nous donne quatre points de vue. Il y en a trois qui sont plutôt synoptiques, qui se concentrent plutôt à décrire les faits dans le temps, et Jean, ben lui a fait une petite perspective un petit peu différente. On a quand même la vie terrestre de Jésus, la naissance, des actes miraculeux, sa passion, son arrestation, son jugement, sa condamnation, la mort à la croix, la résurrection 3 jours après et la montée au ciel. Et le retentissement sur la vie des gens qu'il a vus et le retentissement qu'il y a sur notre vie maintenant. Ils ont raconté ce qu'ils avaient compris. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'ils ont raconté aussi ce qu'ils n'avaient pas compris. Ils nous l'ont transcrit, notamment la mort et la résurrection de Jésus. Jésus leur a annoncé, et eux, ils ne voulaient pas. Ils n'ont pas compris ce qu'il avait annoncé. Nous, avec les années, avec l'inspiration du Saint-Esprit, ben, on est éclairé sur certaines choses. Quoique, des fois, on en découvre des nouvelles. Est-ce que nous avons vraiment, véritablement compris l'acte de la résurrection de Jésus, de tout ce qu'il a fait? Est-ce qu'on prend pleinement conscience de toutes ces choses? Mais ce n'est pas pour autant que ça nous empêche de vivre ces choses. Même si on additionnait tout ce qui a été rapporté dans les quatre évangiles, on pense qu'on n'en aurait pas fait le tour de la vie de Jésus. Jean termine son évangile en Jean 21-25, il dit, Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, Je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21, 25. Et on résume, nous, on a le résumé dans quatre évangiles. Jean, comme les trois autres, a sa manière de faire. Le début de l'évangile, les 12 premiers chapitres, rapportent Jésus et de nombreuses rencontres qu'il va faire. Or, ce sont des rencontres symboliques. On retrouve, c'est un effet d'annonce pour la suite, hein. Jésus et Nicodème, ce grand intellectuel du monde juif. Jésus et la Samaritaine, membre d'un peuple qu'on se méfie, que l'on considère peut-être les juifs à l'époque comme hérétiques. Une femme, vous vous rendez compte, qui a eu 5 maris. Bon, un point de vue. Mais ce qui est important, c'est que Jésus, dans toute cette première partie, annonce que le salut est pour tous. Et pas seulement pour une catégorie de personnes. Il y a Lazare, il y a aussi l'aveugle-né, le paralysé. Ce sur quoi insiste Jean dans ses débuts, c'est que le salut est pour tous. Les quatre évangiles, donc on a Matthieu, qui aurait été écrit aux alentours de 64, qui présente plus un focus sur la judaïté, Jésus le roi des Juifs. C'est le fils de David. On a Marc, qui est un évangile un peu plus dynamique, qui cite beaucoup les paroles de Jésus et qui a une attitude plutôt sur le service. Marc, qui était aussi un serviteur, va mettre un accent sur ça. Luc, pas moi, l'autre. Lui, c'est déjà un témoin de seconde main. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est qu'il n'a pas été disciple. On le voit rejoindre dans les voyages missionnaires de Paul. Et donc lui, il a fait un peu comme moi. On est un peu même prénom, c'est pour ça. Il a fait une enquête. Et il a fait les affiliations humaines. Il a remonté l'histoire. Et donc lui, il s'est fait raconter. Et on retrouve 30 ans plus tard, Jean qui écrit son évangile. Ça a de l'importance, j'en parlerai un tout petit peu après. Le pourquoi, ça a son importance. Parce que, globalement, il y avait une connaissance des autres évangiles. Donc Jean insiste sur le point de vue de l'éternité, de l'incarnation du Fils. Le point de vue de Jean, c'est justement sur la personne de Jésus. Et Jean nous donne après trois épîtres, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, et l'Apocalypse, la Révélation. Et je parlerai un petit peu aussi de la situation de ça. À la suite, les 12 premiers chapitres, les rencontres. Et à la suite, on a, à partir du chapitre 13 jusqu'au 19, et après il y a un petit peu les conclusions, c'est les récits des derniers jours, où le temps est comme suspendu. Le dernier repas de Jésus, qui nous parle pas seulement du repas eucharistique, mais d'un repas testamentaire, au cours duquel revient comme un refrain « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Nous sommes un peu au chapitre 17, comme des disciples, nous entendons parler son Père. Pour terminer sur la situation par rapport aux autres évangiles, 80 à peu près, hein, c'est pour les scientifiques, hein, 90% du contenu de l'évangile de Jean ne se trouve pas dans les autres évangiles. Est-ce que c'est parce que Jean s'adresse à un auditoire qui sont déjà des membres d'église, qui ont une connaissance des lettres, hein, des évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc et de Jean et de Luc. Donc, 5 des 7 miracles rapportés par Jean ne sont enregistrés dans aucun autre évangile. Jean rapporte de nombreux événements qui sont passés en Judée, alors que Matthieu va situer plutôt son récit en Galilée. L'évangile de Jean est riche en éléments doctrinaux, certains de ses grands thèmes étant la divinité de Jésus en tant que fils de Dieu, l'expiation de Christ, la vie éternelle, le Saint-Esprit, la nécessité de naître de nouveau, l'importance d'aimer. D'aimer l'autre et l'importance de croire au Sauveur. Donc on voit vraiment la présence de Jésus. Jean insiste sur la divinité de Jésus en tant que fils de Dieu. Il y a plus de 100 références de Jésus à son Père. Une vingtaine dans Jean 14. Les enseignements qu'a donnés le Sauveur à ses disciples au cours des heures précédant son arrestation, notamment sa grande prière d'intercession, faite la nuit où il a souffert à Gethsémané, sont l'une des principales contributions de Jean. Farid, ce matin, nous disait que Jésus était capable, il avait de l'empathie, il était capable d'avoir de la compassion pour nous parce qu'il a vécu toutes ces choses. Et on le voit dans l'épître de Jean. Cette prière représente, dans Jean 13, 17, 13 à 17, c'est 20% du contenu de cet évangile sur la doctrine du Sauveur et ce qu'il attend de ses disciples. On dit que cet évangile, bon, je l'ai entendu souvent, c'est un peu l'évangile de l'amour. Et on dit souvent, quand vous débutez dans la foi, de lire cet évangile. Alors, l'amour, on a différentes façons de l'aborder. On a un mot que l'on entend, l'amour éros, qui est plus lié à l'amour physique, mais ce n'est pas de cet amour-là qu'il est question. Il est question de l'amour philéo et agapé. Vous vous rappelez ? C'était mon premier message. Petit ref et tout. Ouais, philéo, agapé. Philéo qui va être plus sur l'amitié et l'agapé, qui est l'amour du don de soi pour que les autres vivent. Voilà ce que l'on retrouve dans cet évangile particulier, enfin différent des autres. Par rapport aux autres livres de Jean, est-ce qu'on peut y mettre un petit peu des parallèles ? Est-ce que Jean aborde les mêmes thématiques ? Est-ce que ça revient ? Un petit peu. Dans ses trois épîtres, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, il aborde des thèmes similaires, notamment l'amour, la vérité et la divinité de Christ. Dans 1 Jean, il y a de nouveau cette lutte avec des doctrines un petit peu erronées sur la nature de Christ, en affirmant que Jésus est venu dans la chair, dans 1 Jean 4, 2. Cela reflète un souci constant pour Jean de clarifier la compréhension correcte de la personne de Jésus, à la fois dans son humanité et sa divinité. Dans Jean, il est souvent question de la lumière et des ténèbres, reprenant la thématique du prologue que nous allons bientôt aborder. Dieu est la lumière et il n'y a point de ténèbres, dans 1 Jean 1, verset 5. Les épîtres insistent également sur la communion avec Dieu à travers Christ, un thème présent dans tout l'évangile de Jean. L'Apocalypse, qui est traditionnellement aussi attribué à Jean, a un style très différent des évangiles. Il s'agit plus de révélations prophétiques. Cependant, des parallèles existent entre ces écrits. Dans l'Apocalypse, Jésus est appelé le Verbe de Dieu. Apocalypse 19, 13. J'en parle juste après. Définir bien exactement ce que c'est. C'est une image qui rappelle le prologue de Jean. Et même dans un contexte apocalyptique, Christ est venu comme l'expression ultime et la révélation parfaite de Dieu. L'Apocalypse présente Jésus comme l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Notre prologue commence par « Au commencement était la parole ». Et on va voir que la parole est attribuée, enfin c'est Jésus. comme dans l'Évangile, la lumière est le symbole clé dans l'Apocalypse, avec l'idée que Christ est la lumière de la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, verset 23. Voilà, nous avons situé tout le contexte. Nous allons pouvoir passer maintenant au prologue, les cinq premiers versets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jean témoigne de la divinité de la mission prémortelle de Jésus-Christ consiste à offrir le salut à tous les hommes. Donc avant que Jésus vienne, il y avait déjà cette volonté d'apporter le salut à tous les hommes. On voit d'emblée que la nature divine de Jésus-Christ est présentée dans cet épître, dans cet évangile. Et rien n'est dit sur sa naissance, ni non plus sur son ascendance. Il est Dieu, parole éternelle, verbe incréé, le logos en grec. C'est-à-dire l'expression complète de la personne et de la pensée divine. Moi aussi j'ai eu du mal sur cette partie-là. Le verbe de Dieu ou la parole de Dieu, du grec logos. Utilisé pour désigner Jésus dans l'évangile de Jean a une signification riche et complexe. Il s'agit d'une manière spécifique de décrire Jésus en tant que révélation et expression divine. Voilà plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on parle de verbe pour désigner Jésus. Donc, le logos, dans un contexte grec et juif. Dans la pensée grecque, le logos est une signification plus philosophique, très importante. Pour les philosophes grecs, le logos désignait la raison ou le principe divin qui gouverne l'univers. Mais philosophique, c'est la force relationnelle qui ordonnait le cosmos et donnait cohérence à tout ce qui existe. En utilisant ce terme, Jean touche la conception déjà présente chez les Grecs, mais il donne à ce logos un visage personnel qui est Jésus. Par contre, pour les Juifs, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu est instrument par lequel Dieu crée le monde et accomplit ses œuvres. On retrouve ça dans la Genèse. Dieu crée en prononçant les paroles. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jean 1, verset 3. De plus, dans la pensée juive, la parole de Dieu est associée à la révélation divine. Aux prophètes et aux actes de Dieu dans l'histoire d'Israël. Donc Jésus réunit les deux concepts, l'idée grecque de concept de gestion du cosmos, de création du cosmos, et l'idée juive de la parole créatrice et révélatrice de Dieu. Jésus est bien l'incarnation de cette parole éternelle qui existait avant la création et par laquelle tout a été créé. Le verbe de Dieu est également pour comprendre la relation entre les personnes de la Trinité. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cela montre une distinction entre la parole et Dieu le Père, tout en affirmant l'unité divine. Donc Jean insiste sur ça. La parole, Jésus, est en relation avec le Père, mais elle partage aussi la même nature divine. En d'autres termes, Jean révèle ici un mystère central de la foi chrétienne. Jésus, verbe de Dieu, est distinct du Père, mais il est également Dieu. On voit dans donc c'est dans Jean 1-2, il était au commencement avec Dieu, qui nous rappelle la Genèse. Évidemment, commencement marquant ainsi une nouvelle création spirituelle. Il s'agit d'une proclamation de l'existence éternelle de Jésus-Christ avant la création. Et au verset donc 2, de la communion parfaite, je l'ai dit déjà, de la communion parfaite avec Dieu, le Père. Au verset 3, Jean affirme « Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » Ce qui signifie que Jésus, en tant que Verbe de Dieu, parole de Dieu, est l'agent de la création. Dieu crée tout à travers sa parole. Et cette parole, c'est Jésus. Cette idée est en continuité avec l'Ancien Testament, où Dieu crée l'univers par sa parole. Dans Genèse 1, je viens de le dire. Jean peut montrer que Jésus, en tant que Verbe, en tant que Logos, est la puissance divine créatrice. Il est donc impliqué dans l'acte même de la création, confirmant ainsi sa divinité. Enfin, Jésus, la parole incarnée dans la suite de l'évangile, c'est l'instrument du salut. En tant que Verbe de Dieu, Jésus est l'instrument par lequel Dieu opère le salut de l'humanité. Il ne s'agit pas simplement d'une parole proclamée, mais d'une action salvatrice concrète. Le Verbe incarné est celui qui prend les péchés du monde, meurt et ressuscite pour offrir la vie éternelle. Jean insiste dans ça dès le début et il recadre. Il centre directement tout son évangile sur ça. Enfin, on trouve à la fin, dans Jean 1, 4 et 5, « Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jésus est la source de vie et de lumière dans un monde plongé dans les ténèbres du péché. » J'ai trouvé une autre petite explication sur les ténèbres. On voit aussi que les ténèbres ne l'ont pas accepté, qui va nous parler clairement de ce que Jésus va vivre. Jésus va être vraiment présenté, va être sur la terre, et il va y avoir un affrontement entre Christ et les hommes qui lui sont hostiles. Dès les premières interventions publiques de Jésus, un tri s'opère parmi ses auditeurs. Les uns l'écoutent et ou le suivent, les autres s'étonnent et murmurent. On verra ça un peu dans les chapitres 1 à 4. Mais ces deux versets où on nous dit « Ah, c'est enlevé, c'est pas grave. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. » Il y a deux dimensions. Il y a la dimension vraiment dans la vie de Jésus où les foules vont se séparer entre ceux qui vont devenir après ses disciples et ceux qui ne l'accueillent pas, qui le rejettent. Et encore pour nous aujourd'hui, de dire « Jésus est présenté comme la lumière ». Et cette lumière, elle brille. Les ténèbres ne l'acceptent pas. Le choix nous appartient de dire « Est-ce que je veux accepter Jésus dans ma vie pour que la lumière brille ?» C'est la parole, on voit le point de vue de Jésus, c'est la parole qui recrée, qui produit des miracles et des prodiges. C'est la parole qui s'incarne, qui a un visage, à savoir Jésus. Cette parole est en mouvement en la personne de Jésus. Il va dire des choses, cela impacte des gens. Et encore aujourd'hui. Sa parole est puissante, puisqu'elle crée la vie, mais elle crée des bouleversements. Voici, j'ai terminé. Tu peux mettre la dernière diapo. Donc, j'ai essayé, à travers ma petite enquête, de vous retranscrire qu'est-ce que cet évangile va nous présenter dans les prochains mois, hein, puisqu'on y est pour 4 mois à peu près, de découvrir vraiment un panel. Et Jean, dans son prologue, insiste vraiment sur Jésus incarné, qui était là avant, et qui a choisi lui-même de venir pour apporter le plan du salut pour chacun d'entre nous. Moi, je m'absente pendant 2 mois. fait des bisous. Merci à vous.